On est à la fin de notre série sur Éphésiens. En fait, ça se termine la semaine prochaine. Alors, on va juste faire un petit récapitulatif très rapide pour vous placer avant qu'on aille, pour vous situer avant que Stéphane nous fasse la lecture des Écritures. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? Chapitre 1 d'Éphésiens, on a vu ensemble que Dieu nous avait aimés, nous avait choisis avant la fondation du monde pour qu'on devienne ses enfants. Et ça, c'est Paul dépose ça comme le fondement de notre identité. Avant même de venir au monde, nous avions déjà été aimés d'une manière mystérieuse, puissante de la part de Dieu. Dieu nous avait choisis pour devenir ses enfants. On a vu dans le chapitre 2 qu'avant de devenir ses enfants, nous étions loin de Dieu. Nous étions étrangers à la personne de Dieu. On ne connaissait pas Dieu et nous avons reçu la grâce de Dieu. C'est en vertu de la grâce de Dieu qu'on est devenus des enfants de Dieu. Pas en vertu de nos œuvres. Aucune bonne œuvre que nous aurions pu accomplir ne nous qualifiait à devenir des enfants de Dieu, mais c'est en vertu de sa grâce. Et par ce moyen-là, Dieu nous a réconciliés avec lui et entre nous. C'est comme ça que Dieu a créé l'Église. On a vu ensuite au chapitre 3 que l'Église est le moyen que Dieu a décidé d'utiliser pour illustrer la puissance de l'Évangile, non seulement devant les hommes. Nous, on pourrait se dire, OK, il y a des églises locales, sont là pour annoncer l'Évangile. Non, Paul va plus loin que ça. Il nous dit devant les anges, devant les principautés, devant les êtres célestes qui voient l'Église, ils ont découvert la grâce de Dieu à travers l'Église. Ils ont découvert l'Évangile à travers l'Église comme ils n'auraient pas pu le découvrir autrement. Et donc, encore aujourd'hui, les anges, les principautés spirituelles sont fascinés de voir l'Église locale. Alors, si vous vous êtes pas impressionné par l'Église locale, puis vous dites « Ah, pas tant que ça », eux autres le sont, parce que c'est une manifestation de la grâce de Dieu au milieu de nous. On a vu au chapitre 4 que l'Église, chaque Église locale, est produite par l'Évangile. C'est l'Évangile qui nous rassemble, qui fait qu'on devient des enfants de Dieu. Et donc, c'est l'Évangile qui produit les Églises locales. Et puis, une fois qu'on est dans l'Église locale, on peut apprendre ensemble à vivre avec humilité, avec douceur, avec patience pour se construire les uns les autres. Chacun d'entre nous jouant notre petit rôle dans la construction, dans l'édification les uns des autres. On a vu ensuite de ça chapitre 4, chapitre 5. Autrefois, on n'avait pas de discernement. C'est ça qu'on a vu la semaine dernière. Autrefois, on ne connaissait pas Dieu. Mais aujourd'hui, nous connaissons Dieu, nous avons reçu l'Esprit de Dieu en nous. Et donc, Dieu nous a donné un discernement pour ne plus vivre comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais pour marcher autrement, puis considérer toutes choses, toutes les décisions qu'on prend tous les jours de nos vies, en renonçant au mal. Chacun d'entre nous, si vous avez l'Esprit de Dieu, vous avez ce discernement-là avec l'assistance de l'Esprit et de la parole de Dieu pour discerner le mal, renoncer au mal, choisir le bien et savoir pourquoi vous le faites. Un travailleur chrétien n'est pas honnête juste pour être honnête, puis un chrétien ne travaille pas juste pour travailler, il travaille pour avoir de quoi aider ceux qui sont dans le besoin, par exemple. On sait pour quelles raisons. Et cette semaine, enfin, on va aller voir comment est-ce que cela se traduit de manière très concrète, très, très concrète dans nos relations humaines. C'est bon? On va aller ensemble dans la prière. Ensuite, on va écouter la parole de Dieu puis on va plonger dans ce beau passage-là ce matin. Père éternel, merci de nous avoir aimés. De nous avoir aimés, Seigneur, avant même qu'on vienne au monde. Tu avais jeté ton regard sur nous. Et Seigneur, tu nous as sauvés par pure grâce pour que nous célébrions ta gloire, pour que nos vies soient des témoignages puissants de ta gloire, de ta grâce, Seigneur. Merci d'avoir créé l'Église par la puissance de l'Évangile et nos rapports les uns avec les autres dans l'Église sont des témoignages puissants de l'Évangile. Alors, Père, ce matin, je te demande de venir nous parler par ton esprit de nos relations. Très concrètement, à la maison, dans nos couples, avec nos enfants, avec nos parents, au travail, Seigneur. Viens nous parler de cette œuvre puissante que l'Esprit veut faire en nous pour qu'encore une fois nos vies soient un reflet de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est en son précieux nom que nous te prions. Amen. Tournez avec nous dans Éphésiens 5, on va écouter la lecture de la parole de Dieu.
Alors, la lecture de ce matin est dans Éphésiens au chapitre 5, à partir du verset 18. Jusqu'au chapitre 6, verset 9. Éphésiens, chapitre 5, verset 18. On va lire jusqu'au chapitre 6, verset 9, et je vais lire dans la version Nouvelle Édition Genève. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis d'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point de favoritisme.
Merci Stéphane. Ce matin, on parle de relations humaines. Fait que j'ai apporté mon marteau pour parler de relations humaines. Petite leçon de choses ce matin pour commencer. Marteau, c'est vraiment une technologie extrêmement impressionnante. C'est une technologie, on s'entend? C'est pas un téléphone intelligent, là. Peut-être que ça vous impressionne pas, mais c'est vraiment fascinant ce qu'on fait avec cette affaire-là. Hein? C'est super puissant. Premièrement, évidemment, lorsqu'on veut enfoncer un clou, vous avez déjà essayé d'enfoncer un clou avec vos mains pour le fun? Avec une brique ou un caillou, peut-être? Mais c'est très, très, très précis. Puis si vous avez déjà vu des ouvriers qui sont habiles, peut-être que je ferai pas une bonne démonstration, mais si vous avez déjà vu des ouvriers qui sont habiles avec un marteau, c'est extraordinairement précis et extrêmement puissant. Maintenant, ça s'arrête pas là. Il y a aussi une autre partie sur le marteau que je trouve absolument géniale. L'espèce de petite fourche qui est ici en avant qui sert à, évidemment, arracher des clous. Et puis encore là, comment on ferait pour arracher un clou de 4 pouces avec nos ongles, une paire de pinces ou n'importe quoi? Donc, c'est vraiment fascinant. C'est vrai, ça a l'air de niaiseux comme patente, mais c'est vraiment une technologie extrêmement puissante et utile. Si on sait à quoi ça sert. Parce que je pourrais aussi décider de me promener avec mon marteau dans la salle puis de venir vous taper sur les doigts. C'est très, très, très puissant aussi pour ça. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé. Tu as essayé de planter un clou, puis hop, ça a passé tout droit, hein? On s'en rappelle toute sa vie. Tu le fais pas 26 fois ou tu changes de métier, tu sais. Mais non, ça rentre sur un doigt, un marteau. Très puissant. Donc, l'idée, c'est que c'est utile et magnifique dans la mesure où ça sert à ce pourquoi ça a été conçu. Ça a été créé pour quelque chose, et si on veut que ce soit vraiment fantastique, il faut s'en servir pour les bonnes raisons, et puis développer l'habileté pour s'en servir. C'est la même chose, les relations humaines. Dans ce sens-là, c'est la même chose, les relations humaines. C'est Dieu qui nous a créés, et c'est Dieu donc qui a créé les rapports humains. Et si je ne sais pas d'où viennent les relations humaines, si je ne comprends pas à quoi elles doivent servir, je peux faire énormément de mal à travers les relations au lieu d'être en train d'édifier les gens autour de moi. Retenez l'illustration de mon marteau. Vous allez voir comment on peut faire du bien ou tout le contraire avec les relations humaines. Ce matin, on va voir ensemble comme chrétiens. Toutes nos relations servent à refléter Christ. Donc, d'une part, elles reflètent la personne de Christ et elles sont aussi un reflet de notre amour pour Christ. Toutes nos relations, ta relation avec ton épouse, ton époux, tes enfants, tes collègues, ta famille, tes voisins, toutes nos relations comme chrétiens servent à refléter Christ et elles sont un reflet de notre amour pour Christ. Et quand tu saisis cela, il y a une puissance absolument incroyable pour grandir dans nos relations humaines lorsque tu saisis cette vérité-là. Nos relations sont motivées premièrement par notre amour pour Christ. Revenez avec moi dans le passage dans Éphésiens 5. Au tout début, il y a une espèce de préambule. C'est pour ça qu'on a lu à partir du verset 18 ce matin. Les versets 18 à 21 sont comme une espèce de préambule, d'accord, d'introduction à ce qui va suivre au niveau des relations. Donc, je vous le relis, versets 18 à 21. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et puis ensuite de ça, il va se mettre à développer des relations à l'intérieur de l'Église, des relations dans la famille, dans le couple, avec les enfants, avec nos collègues de travail, à l'époque avec des serviteurs, littéralement même des esclaves. Mais il y a premièrement ce préambule-là, cette introduction-là, et on doit comprendre. Depuis le début d'Éphésiens 4, là, Paul est en train de devenir pratique, puis de nous dire, quand tu connais ton identité, qui tu es, ça va venir dicter, ça va venir instruire comment tu vas fonctionner dans l'Église, comment tu vas fonctionner dans le monde. Et là, ce que Paul est en train de nous dire, c'est que je vais vous parler maintenant de vos relations ensemble. Puis dans tous nos rapports, dans toutes nos relations, un chrétien est en train de servir. C'est Christ qui est notre maître, notre Seigneur, et un chrétien est toujours en train de servir dans ses relations. Parce que nous voulons faire comme notre Seigneur qui s'est fait serviteur. Et donc, une des vertus les plus importantes pour un chrétien, c'est l'humilité. Parce que je décide volontairement de ne pas me mettre au centre, puis d'aller servir quelqu'un d'autre au lieu. Et Paul semble être en train de nous dire que cela ne se fera pas sans être rempli de l'Esprit. Sans être rempli de l'Esprit, on va dénaturer les relations. Et c'est pour ça que Paul est en train de préparer le terrain en disant, regardez, soyez remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques, afin que votre pensée soit vraiment remplie de la parole, puis l'Esprit va disposer votre cœur, et là vous allez arriver dans des rapports de soumission mutuelle, de service mutuel. C'est ça qu'il est en train de nous dire ici, vous soumettant les uns aux autres. Et je veux attirer votre attention sur les 5 derniers mots de cette espèce de préambule-là, parce que c'est ça qui va dicter toute la suite. Regardez à la fin qu'est-ce qui est écrit « Dans la crainte de Christ ». Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. De quoi il parle ici? Pourquoi est-ce qu'il viendrait parler de crainte à ce point-ci? Pourquoi est-ce qu'on craindrait Christ? Craindre Dieu, déjà, c'est Dieu le Père qui est des fois là, tellement sévère, mais pourquoi est-ce qu'on craindrait Christ? Est-ce qu'on n'est pas sauvé par grâce? Est-ce que Éphésiens, ce n'est pas justement la lettre de la grâce qui nous dit qu'on a été aimé alors même qu'on était pécheur, donc on est adopté? C'est quoi cette idée de crainte-là qu'il y a là? Et pour bien comprendre l'idée qu'il y a là, il faut comprendre dans l'Ancien Testament, cette notion de crainte de Dieu, même pour le peuple de Dieu, est constamment présente. Pour bien le traduire à notre époque, on parlerait d'une espèce d'émerveillement, de révérence, de saint respect pour la personne de Christ. Et qu'est-ce qui dicte cela pour nous? C'est d'une part sa grandeur, mais d'autre part ce qu'il a fait pour nous, qui a fait de lui notre Seigneur. Et donc, Paul est en train de dire, c'est important, c'est quoi le rapport avec vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ? C'est quoi le lien entre les deux? Paul est en train de dire, vous allez trouver la motivation. Vous allez trouver l'inspiration. Vous allez trouver la puissance pour avoir une attitude de service, de soumission mutuelle dans vos relations, dans le fait que vous le faites pour Christ. Vous le faites en pensant à Christ. Toutes les relations humaines, pour un chrétien, ne sont jamais faites dans mon intérêt propre, jamais faites, premièrement, pour la personne qui est devant moi, mais toujours faites, premièrement, pour la personne de Christ, pour la personne de Dieu. Et donc, Paul va revenir constamment à travers les prochains versets avec « comme pour le Seigneur, au nom du Seigneur, dans le Seigneur, comme pour le Seigneur ». Il revient constamment avec cette idée-là. Il dit « tu vas faire ceci envers la personne qui est devant toi, mais tu le fais comme pour le Seigneur. Tu le fais parce que tu es en train de servir le Seigneur. Tu es en train de le faire selon le Seigneur. » Voyez-vous, pour un chrétien, toutes nos relations ne sont pas premièrement pour moi, puisque je l'ai dit, on est là pour être des serviteurs, mais je ne suis même pas premièrement le serviteur de la personne qui est devant moi. Je ne suis même pas premièrement en train de servir mon voisin, mon épouse, mes enfants, mon collègue, mon patron, les frères et sœurs dans l'Église. Même pas premièrement, je suis en train de servir Christ. Et dans la mesure où vous allez saisir cela, vous allez trouver une puissance absolument incroyable. Par exemple, dans tous les exemples d'applications qui suivent, Paul fait quelque chose qui est contre-révolutionnaire pour l'époque, vraiment radical. Il y a des relations où il y a une espèce de structure hiérarchique qui est là, envers des parents, envers des enfants, même dans le foyer, on va en parler ensemble, inquiétez-vous pas, dans la relation entre le mari qui est chef du foyer, tout ça, mais entre un maître puis un serviteur, ou entre un patron, admettons, puis un employé, il y a des rapports de hiérarchie qui sont là. Mais Paul fait quelque chose qui est contre-culturel pour l'époque. C'est qu'il va s'adresser, par exemple, il s'adresse directement aux épouses. Puis il va dire aux épouses, voici, vous avez un choix à faire. Vous devez choisir d'entrer dans le rôle auquel vous êtes appelé. Plus loin, il s'adresse aux enfants. Les enfants dont il est question ici, ce sont des enfants qui sont des enfants à la maison, c'est clair dans le grec. C'est pas un enfant, c'est pas comme honore tes parents jusqu'à temps qu'ils décèdent, même quand tu es marié depuis 28 ans. C'est pas ça qu'on parle, on parle des enfants qui sont à la maison. Il s'adresse directement à des enfants. Essayez de vous reporter à l'époque, c'est quoi un enfant? Tu t'adresses pas directement à un enfant dans une lettre qu'un apôtre écrit à une église. Tu le dis à ses parents, puis les parents l'enseigneront à l'enfant. Non, c'est pas comme ça dans l'église. Si tes enfants sont chrétiens, Paul s'adresse à eux directement. Et ça, c'est super important. Donc, ça veut dire comme enfant, de n'importe quel âge, j'ai 17 ans, j'habite à la maison, j'ai 13 ans, j'ai 12 ans, j'ai 8 ans, dans la mesure où je saisis l'Évangile puis je deviens chrétien, je suis premièrement en train de servir Christ. Comme épouse, c'est la même chose. Puis, alors, c'est sûr que ce que Paul présente comme modèle de relation dans le couple, c'est complètement contre-culturel avec notre époque. J'y viens bientôt. Mais Paul est en train de s'adresser directement à l'épouse. Vous ne trouvez pas dans ce texte-là Paul qui va dire au mari de soumettre sa femme? D'accord? C'est pas ça l'idée. Qu'est-ce que ça apporte, ça? Bien, ça apporte le fait que comme chrétien, je suis toujours en train de servir Christ et je sers toujours dans la crainte de Christ, jamais dans la crainte des hommes. Jamais dans la crainte des hommes. Comme chrétien, mon éternité m'est assurée, je suis en train de servir Jésus-Christ, celui qui est mon maître, c'est Dieu, et un chrétien, qu'il ait n'importe quel âge, qu'il soit de n'importe quelle race, de n'importe quel sexe, dans n'importe quelle situation de service, n'a jamais à craindre les hommes. Jamais! Parce qu'il craint Christ. Jésus va dire, pourquoi est-ce que tu craindrais les hommes qui, ou le diable qui peuvent détruire ton âme? Non! Crains Dieu qui peut détruire ton âme. Tu n'as pas à craindre les hommes. Jamais. Et donc, dans tout ce qui va suivre, jamais je dois voir l'idée que je dois craindre quelqu'un qui est placé en autorité au-dessus de moi. Pas du tout. Je choisis d'honorer un rôle auquel j'ai été appelé parce que la seule personne que je crains, c'est Christ. C'est lui mon sauveur, c'est lui mon Seigneur, c'est lui qui est maître de ma vie, c'est lui qui est tout-puissant. Et même si je décide de venir te voir puis d'être ton serviteur, de m'humilier puis d'être ton serviteur, c'est pas parce que je te crains. J'ai pas à te craindre. J'ai pas à craindre aucun homme. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu pourrais m'enlever la vie? Je m'en vais au ciel pour l'éternité. Enlève-moi la vie, si tu veux. C'est ça que les chrétiens doivent penser lorsqu'ils sont persécutés puis qu'ils vont donner leur vie pour le nom de Christ, non? C'est ça, non? Alors, parce que je sais que j'appartiens à Jésus-Christ et que je suis un serviteur de Christ, parce que dans tous mes rapports, dans toutes mes relations humaines, je le fais pas premièrement pour moi, pas premièrement pour la personne devant moi, mais pour Christ, cela implique que je n'ai jamais à craindre les hommes. Et dans tout ce qui va suivre, si vous comprenez dans ça une espèce de vision où les femmes, où les enfants, où les esclaves sont gardés dans la crainte, c'est que vous n'avez pas compris tous les chapitres qui précèdent dans Éphésiens. J'ai été choisi personnellement, je connais mon identité, je suis un enfant de Dieu. Tout ce que les gens peuvent penser de moi, dire de moi, ça se peut que ça m'affecte, ça se peut que ça me fasse de la peine. En définitive, ça n'a pas d'impact sur qui je suis. Il n'y a personne dans cette salle qui peut te dire quelle est ton identité, sinon Dieu. Il n'y a personne. Il n'y a personne sur la terre qui peut te dire qui tu es, quelle est ta valeur, sinon Dieu. Il n'y a rien que quelqu'un peut venir m'enlever moi qui possède, j'ai Christ en moi. Il n'y a personne qui peut m'enlever ma valeur parce que ma valeur se trouve en Jésus-Christ. Je suis un enfant de Dieu. Et à cause de cela, pour cette raison, je peux facilement devenir ton serviteur, même si toi tu me méprises, même si tu ne me respectes pas, je peux devenir ton serviteur. Ce n'est pas si important que ça à la fin de la journée. Je fais les choses comme pour le Seigneur. Amen? Amen? C'est vraiment important. Si vous voulez aller puiser toute la puissance qu'il y a dans ce passage-là, c'est vraiment important que vous grandissiez dans votre identité en Jésus-Christ. Autrement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher dans les relations humaines ce que seul Dieu peut vous donner. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est vraiment important. Vous allez chercher dans les rapports humains un regard qui va définir votre valeur. Hey boy! Faut quasiment être suicidaire pour fonctionner comme ça. Faut pas beaucoup aimer la vie pour chercher dans le regard des autres la définition de ma valeur. Alors, qu'est-ce que le monde te dit? Non, arrête de regarder dans le regard des autres. Regarde-toi dans le miroir! Le problème, c'est qu'il y a des journées que tu vas être lucide. Tu sais? Tu vas voir que finalement, tu n'es peut-être pas si hot que ça. Fait que même ton regard, il ne sera pas encourageant. Ma sécurité, mon identité est dans le fait que Christ m'a aimé, m'a choisi. Et tout ce que je fais, toutes mes relations sont faites sous le regard de Christ, dans la crainte de Christ. C'est à lui que je veux plaire. C'est pas grave. C'est pas grave si les autres ne voient pas mon service ou quoi que ce soit. La crainte et l'amour de Christ, parce que Christ nous a aimés, je décide de devenir son serviteur. On lit dans Éphésiens 5, 1 et 2. « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice. » Voyez-vous ce qu'on disait la semaine dernière? Un chrétien renonce au mal, choisit de faire le bien, mais il sait pourquoi il le fait. « Je sais pourquoi. » Je prends plaisir à être un serviteur. C'est parce que Christ s'est fait mon serviteur. Christ m'a aimé. Je sais pourquoi je choisis de faire le bien. J'ai une motivation qui est biblique, qui est solide, qui transcende même le mépris des fois que pourraient avoir envers moi les hommes. Et donc, ça me donne la conviction de refléter Christ dans le monde. Cette conviction-là de vouloir refléter Christ dépend pas du fait que les gens vont le reconnaître, que les gens vont voir mon service, que les gens vont voir le bien que je fais. Cette conviction-là est profonde, elle est en moi, elle est ancrée dans le fait que je sers mon épouse, je sers mes enfants, je sers mon voisin, je sers mes collègues de travail, je suis un serviteur parce que je suis sauvé en Jésus-Christ qui a été mon serviteur. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans les relations? Paul nous donne trois instances de relations. Il va nous parler du mariage, il va nous parler, donc, la relation entre l'épouse et son époux, il va nous parler des relations entre les enfants et leurs parents, il va nous parler des relations à l'époque entre un maître et puis ses serviteurs, mais transposons-le quand même avec toutes les nuances qu'il y aura à faire entre un employeur et puis un employé, d'accord? Maintenant, il y a quand même plusieurs parallèles. Et ce que je vais faire ce matin, c'est que je vais me concentrer sur le mariage. Je vais me concentrer sur le mariage parce qu'il y a quelque chose de plus à l'intérieur du mariage qui est extrêmement important de saisir. et parce que celui-là va nous instruire après dans les autres relations. J'ai intitulé ce point-là « Nos mariages sont des teasers ». Vous savez c'est quoi un teaser? C'est une annonce vidéo qui annonce un film qui s'en vient. Mais Paul nous apprend dans ce passage-là que nos mariages sont des teasers. C'est une annonce très courte d'un autre mariage, qui est à venir. C'est Tim Keller qui dit « La Bible commence avec un mariage, celui d'Adam et Ève. » C'est vrai? La Bible commence avec un mariage, celui d'Adam et Ève, et se termine dans le livre de l'Apocalypse avec un autre mariage, celui de Christ et de son Église. Et donc, on lit dans Éphésiens 5, versets 25 à 27, « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, et pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Ainsi, toutes nos relations parlent de notre amour pour Christ, et la relation entre un époux et une épouse, entre une épouse et un époux, parle non seulement de notre amour pour Christ, mais parle de l'amour que Christ a pour son Église. D'une manière unique, dans toutes les relations humaines qu'il y a. Et si vous aviez à me demander, est-ce que le mariage est plus important, admettons, que l'institution de l'Église? L'Église est 100 fois plus importante que le mariage. Le mariage annonce l'Église. Mais nos rapports ici sont encore plus importants. Parce que dans l'éternité, c'est notre mariage avec Christ qui va être célébré. Mais d'une manière unique, nos mariages terrestres, quand Esther et moi nous sommes mariés bientôt il y a 25 ans, nous avons décidé, si on était chrétien à l'époque, on pouvait le savoir, d'entrer dans une pièce de théâtre où chacun, on allait recevoir notre script et on allait jouer un rôle différent chacun. Esther allait être appelée, était appelée, selon ce que Paul nous enseigne, à jouer le rôle de l'Église. Et le rôle auquel moi j'allais être appelé allait être celui de Christ. Dieu est très surprenant, n'est-ce pas? C'est pas parce que je méritais ce rôle-là, vous comprenez? Il n'y a pas eu d'audition, s'il y en avait eu, hein? Une chance, tu ne l'as pas demandé, parce que tu n'aurais pas été choisi. C'est Christ qui nous a choisis. Mais ce que Paul nous dit ici, c'est que lorsque un chrétien et une chrétienne se marient ensemble, ils reçoivent chacun un scénario, un rôle à jouer, et ils vont entrer en scène pour mettre en scène, de manière très imparfaite, reconnaissons-le, un mariage qui est à venir. En fait, qui est commencé avec la venue de Jésus-Christ, mais on attend encore les noces de l'agneau, où ça va être célébré dans l'éternité. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus nous enseigne en nous disant, « Ouais, mais dans l'éternité, les boys, les filles, là, vous n'allez pas être mariés ensemble. » L'époux, ça va être Christ, ça va être encore mille fois plus glorieux que tout ce que vous auriez pu rêver comme amour romantique sur la terre. Et donc, le mariage terrestre entre un homme et une femme, c'est littéralement cela. C'est une représentation de l'Évangile. Alors je vais vous soumettre une difficulté, d'accord? Puis je vais vous laisser jongler avec ça, mais elle est vraiment importante pour pouvoir disposer nos cœurs à accepter ce que Paul enseigne ici. Si nous disons, d'accord, qu'il n'y a pas de rôle pour l'homme particulier puis de rôle particulier pour la femme, si nous disons que l'homme n'est pas appelé à prendre l'initiative du leadership puis à donner une direction à son foyer puis son épouse à venir l'appuyer dans ce travail-là puis essayer d'honorer cette espèce de brute-là très imparfaite dans ce qu'il essaie d'être comme leader, si nous disons que ça, c'est pas là, dites-moi comment nos mariages vont produire la pièce de théâtre qu'on est censé produire. Parce qu'il n'y a aucun autre type de relation sur la terre qui reflète ça. C'est vraiment dans le mariage qu'on a ce privilège-là de jouer cette... Même les enfants, on est ailleurs dans notre rapport avec nos enfants. On est ailleurs dans nos rapports avec nos collègues de travail. C'est quelque chose d'autre. Mais dans l'Église, c'est-à-dire dans le mariage, il y a des parts qui sont à jouer qui sont uniques. Et si on aborde le mariage en disant « Non, on est des modernes, nous. On est des modernes. Il n'y a pas de rôle particulier pour l'homme, il n'y a pas de rôle particulier pour la femme. C'est, 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 Vous ne comprenez pas, c'est condescendant, la femme est en train de se faire soumettre. Regardez toute l'histoire de comment la femme a été écrasée, et c'est tout à fait vrai. Comme j'ai dit tout à l'heure, je peux ressortir mon marteau, si vous voulez voir ce qu'on peut faire avec un marteau. C'est ça qu'on peut faire aussi avec les relations humaines, avec le mariage. Si on ne sait pas à quoi ça sert, on peut faire beaucoup de mal. D'accord, 100% d'accord avec vous. Mais si comme réponse, l'Église moderne dit, OK, on va me faire du ménage là-dedans, là, c'est beau, Paul, le vieux dépassé, en plus, tu n'es même pas marié, mon vieux, fait que tu ne sais même pas de quoi tu parles. Comment est-ce qu'on va jouer cette pièce de théâtre-là? Comment on va illustrer Christ et l'Église devant nos enfants, devant nos familles? Parce qu'il y a dans nos mariages une pièce, une mise en scène qui est absolument superbe. Et donc, oui, Paul est en train d'appeler l'épouse à entrer dans un rôle où elle va mettre en scène le rôle de l'Église. Et donc, Paul est très, très clair lorsqu'il dit « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Et encore une fois, comme je vous dis, il s'adresse directement à l'épouse. Ce que vous avez vu à travers l'histoire de l'humanité où des hommes dominants et violents soumettent leurs femmes, ça n'a rien à voir avec ce qu'il dit ici. L'homme n'a aucune autorité pour soumettre sa femme. Et la femme n'a aucune raison de craindre son mari. Elle est appelée à craindre qui? Christ. Elle est appelée à entrer dans un rôle d'aide, d'appui volontaire, où elle va chercher à honorer un homme très imparfait. Fait que c'est ça le problème, hein? C'est beau, Yannick, le rôle de l'Église, c'est de se soumettre, tu sais, à un sauveur qui est parfait. Puis moi, si tu connaissais mon mari, ben écoutez, vous pouvez aller jaser avec Esther, si vous voulez, elle a plein de choses à raconter aussi. C'est ça, tu sais, c'est plus le fun d'être soumis à Christ, puis d'honorer Christ que d'honorer Yannick. C'est justement ça le point. Quand tu es en train de chercher à honorer ton mari, tu le fais pas premièrement pour ton mari, puis parce que, waouh, il est honorable, il est génial. Tu le fais pour Christ, qui, lui, est génial, puis honorable. Parce que si tu le faisais juste pour le bozo qui est en avant de toi, sérieux. Comprenez? Les chrétiens ne servent pas les gens autour d'eux à la mesure de la dignité des gens devant eux, à la mesure du fait qu'ils sont honorables. Les chrétiens servent parce qu'ils comprennent leur appel et ils le font pour Christ. Alors, de la même manière, Paul va dire, et c'est pour ça que Paul introduit tout ça avec un rapport de soumission mutuelle. Regardez ce que Paul demande à l'époux. « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. » Pour faire apparaître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme Christ, doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et là, il fait référence évidemment à Genèse. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, deviendront une seule chair. Et donc, l'homme est appelé définitivement à être le plus grand serviteur de la maison. Vous savez, des fois, vous m'entendez dire, si vous estimez comme pasteur que les pasteurs de cette assemblée ne sont pas les plus grands serviteurs, dans le sens les plus dévoués de l'Église, venez nous le dire. On doit vous remettre notre démission rapidement. Parce qu'on devrait être connu, pas par réputation, de visu constamment, comme les plus dévoués de toute l'Église. Autrement, on ne reflète pas Christ. Et de la même manière, le mari est appelé, c'est la mesure de son service pour son épouse. C'est comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Quand est-ce que j'ai assez servi ma femme? Quand je suis mort à la croix? Quand ton cœur arrêtera de battre, tu auras assez servi ta femme. C'est ça, si c'est comme Christ, non? Non, ressuscité, il est encore en train de prendre soin de nous, puis il est en train d'intercéder pour nous. Et donc, comme époux, je suis appelé à être le serviteur de mon foyer. Je suis appelé à servir mon épouse et j'ai un objectif en tête. Rappelez-vous la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a dit? Le chrétien renonce à faire le mal. Quand j'entre dans le mariage comme chrétien, les gens aujourd'hui vont dans des relations amoureuses, puis leur objectif, c'est comme une espèce de relation donnant-donnant, tu sais. On va être en relation ensemble, je vais apporter ma part, ça va te faire du bien, tu vas être bien dans cette relation-là, tu vas apporter ta part, puis dans mesure où c'est équitable, on restera ensemble, d'accord? Si à un moment donné, cette relation-là ne m'apporte pas assez, je vais me retirer de cette relation-là. Maintenant, comme chrétien, on dit non, c'est pas à ça que ça sert les relations. Moi, je suis nourri constamment, tous les matins, à chaque instant, ma batterie d'amour est chargé avec Christ. J'ai pas besoin de ça pour charger ma batterie. C'est ma relation avec Christ qui charge ma batterie. Et donc, je viens comme serviteur. Donc, je renonce au mal qui est à la pensée de ce monde qui dit les relations humaines, c'est donnant-donnant cette affaire-là. C'est supposé t'apporter quelque chose. D'accord? Retire-toi. Si les gens, tu sais, sont pas gentils avec toi, retire-toi. J'ai même pas besoin de faire ça parce que je dépends pas de ce qu'il m'apporte ou non. Je dépends de Christ. Je renonce au mal. Maintenant, je veux faire le bien. Je veux être un serviteur. Je veux donner. Mais Paul va plus loin. Pourquoi est-ce que je veux aimer mon épouse? Je veux le faire avec la vision de Jésus-Christ. Je veux travailler à son édification spirituelle. Je veux l'aider à grandir dans sa foi. Je veux prendre l'initiative de ramener Dieu au milieu du foyer, au milieu de nos conflits, au milieu de nos décisions. Je veux aider mon épouse à devenir une femme de Dieu. C'est ça que je veux. Amen. C'est ça que je veux. Et les gars, c'est votre job de faire ça. Si tu ne voulais pas devenir le serviteur de ton épouse, il fallait rester célibataire. C'est ça que Paul dit, hein? Les célibataires sont premièrement serviteurs de Dieu, puis ceux qui sont mariés, pour être serviteurs de Dieu, sont serviteurs l'un de l'autre. C'est ça que l'apôtre Paul dit, non? C'est exactement ça qu'il dit. Si tu ne voulais pas devenir serviteur de cette femme-là, il ne fallait pas la marier, mon ami. Parce que maintenant, la plus belle manière par laquelle tu vas illustrer ton amour pour Christ, c'est dans ta manière de servir ton épouse. Et on connaît la mesure de ton amour pour Christ à la mesure de l'amour que tu déploies pour ton épouse. En action, comme ton propre corps. Évidemment, on est pécheurs, les amis. On est pécheurs. Voyez-vous pourquoi Paul introduit tout ça en disant « ça va prendre la puissance de l'esprit, les amis, cette affaire-là ». Parce que par vous-même, vous allez retomber sur votre mode de « écoute, ça ne me satisfait pas cette relation-là, je ne reçois pas dans cette relation-là ce que je veux retirer. » Et donc, j'ai besoin de retourner à Christ et me rappeler pourquoi je suis là-dedans, pourquoi je me suis embarqué dans ça. Je me suis embarqué dans cette vie chrétienne-là et dans ce mariage-là pour refléter Jésus-Christ. Et donc, je fais tout comme pour servir Christ. Et donc, dans un mariage qui va refléter l'Église, l'épouse va choisir d'elle-même. Et si elle ne le choisit pas, ça n'empêche en rien le mari de jouer son rôle. Mais l'épouse va choisir d'elle-même d'être celle qui vient appuyer, celle qui vient honorer Christ en honorant son mari, celle qui vient comme servante, qui vient servir. Et le mari va choisir d'être serviteur, volontairement, en aimant, en prenant l'initiative du leadership, en se sentant en définitive responsable. Puis on pourrait faire de la pop psychologie, puis commencer à dire « Ah, Dieu a décidé ça, parce que les gars, c'est des gros bébés qui aiment jouer avec leurs jeux, puis les filles, tu sais, non, les femmes sont autrement, sont plus... » Fait qu'il a donné la responsabilité à l'irresponsable pour qu'il soit responsable. Non! C'est pas ça! Il a donné ça comme ça parce qu'il voulait montrer l'amour de Christ pour son Église. C'est pour ça qu'il nous a donné cela. Et on a un choix à faire, chacun d'entre nous, d'entrer dans notre relation de couple chaque jour en voulant jouer notre partie à nous, notre partition à nous. De même pour les enfants et leurs parents. Les enfants, vous êtes appelés à honorer, à obéir à vos parents selon le Seigneur, parce que vous le faites pour le Seigneur. Et c'est un choix que vous avez à faire. Les parents, vous êtes appelés à instruire vos enfants selon le Seigneur. Vous êtes, en quelque sorte, des serviteurs, parce que vous êtes là comme ambassadeurs du Seigneur auprès de vos enfants. Et vos enfants ne sont pas là pour servir votre accomplissement personnel puis dire « Wow, la belle réalisation, regarde, je m'accomplis à travers mes enfants. » Non, tu es là comme un ambassadeur de Christ auprès de tes enfants. Tu es là simplement pour qu'ils connaissent Christ à travers ta vie, ton attitude, tes enseignements. Et ça va être la même chose au travail. Comme employé, je peux décider de devenir un serviteur, avoir cette attitude de serviteur, que mon employeur soit honnête, honorable, peu importe. Parce que je ne suis pas premièrement son employé, je suis serviteur de Christ. Et comme employeur, c'est la même chose. Paul dit, oubliez pas les employeurs, parce qu'il s'adresse à des chrétiens, donc les maîtres chrétiens, que si tu as un serviteur qui est chrétien, vous avez tous les deux le même maître. Vous avez tous les deux le même maître. Vous êtes en train de servir la même personne, en définitive, avec des rôles différents à jouer. C'est ce qui va faire qu'ailleurs, Paul va dire aux chrétiens, honorer les autorités, et qu'on est capable justement d'honorer les autorités civiles, d'honorer le gouvernement. Si je me retrouvais là, devant Justin Trudeau, est-ce que, si Justin Trudeau était ici et j'étais là, je pense que vous ne m'écouteriez plus, d'accord? Je pense que vous voudriez comme l'entendre. Mais ce serait correct. Non, mais ce serait correct, ce serait bien, c'est le premier ministre. Moi, personnellement, ça serait comme, ouh, OK, premier ministre est ici. Mais sérieusement, devant Dieu, est-ce que cette personne-là, cet être humain-là, a plus de valeur que n'importe qui ici, devant Dieu? Personne. Personne n'a plus de valeur, sinon ceux que Dieu a choisis, qu'il a aimé. Et donc, parce que c'est clair dans mon esprit, je suis libre de ne pas utiliser les relations humaines pour aller chercher ma valeur. Ma valeur, je l'ai trouvée en Jésus-Christ. Et je suis libre de devenir un serviteur, de m'engager dans des rapports humains où ce n'est pas moi qui vais être au centre. Je suis là pour servir les autres et je sais, j'ai à l'esprit, qu'en servant les autres, ce n'est même pas la personne qui est devant moi que je suis en train de servir. Je suis en train de servir Jésus-Christ. Ça veut dire que si mon employeur est Dieu, je suis en train de servir Christ. Ça veut dire que si mon épouse, j'ai l'impression qu'elle est toujours en train de ne pas me respecter. Puis c'est tellement comme important dans la tête des gars, être respecté. C'est pas important. C'est triste. C'est pas que c'est pas important pour elle. C'est que ma valeur n'est pas là. Tu trouves que ton mari ne s'est pas aimé, puis tu dis, il n'est pas aimable, ce mari-là. Vraiment pas honorable. Tu peux prier pour lui. S'il y a un péché dans sa vie, tu peux le confronter avec son péché. 100%. Tu n'as pas à craindre cet homme-là. Tu crains Dieu, tu crains Christ. Mais en même temps, tu peux trouver en Jésus-Christ toutes les ressources nécessaires pour être l'épouse que Dieu t'a appelée à être. Pour être l'enfant que Dieu t'a appelé à être, pour le patron, être le patron que Dieu t'a appelé à être, pour être le mari que Dieu t'a appelé à être. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. La pensée du monde aujourd'hui, c'est que je dois chercher à établir ma valeur. Je dois chercher à définir ce que je vaux, qui je suis. On vit en Occident dans une culture qui a perdu le repère de Dieu, d'accord? On vit dans une société de plus en plus déchristianisée, d'accord? On est dans un air post-chrétien. Et donc, ça laisse l'être humain comme seul avec lui-même pour définir sa propre valeur. C'est ça qui se passe. Il doit s'auto-définir lui-même. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder dans les relations avec les gens, son statut social, est-ce qu'il est respecté, est-ce que mon amoureuse me donne tout l'amour qui va définir ma valeur, est-ce que mes enfants me respectent ou ne me respectent pas. Mais ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous avez connu l'amour de Christ pour vous. Et Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour chacun d'entre nous. Lui qui était roi et maître s'est fait serviteur. Il est venu sur la terre et il s'est fait notre serviteur. Et il nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. À cause de Jésus-Christ, par la foi, par pure grâce, sans nous regarder en disant « Wow, man, t'as une super valeur, je veux t'avoir dans mon team. Hey, toi, ma fille, là, je veux t'avoir dans mon... » Non! Parce qu'il nous a aimés, il nous a fait grâce. Il a fait de nous ses enfants. Et ça, c'est ce qui définit ma valeur. C'est l'amour de Christ pour moi. C'est ce qui définit mon identité. Je suis un bien-aimé de Dieu. Et il n'y a personne sur la terre qui peut m'enlever cela. Quand bien même on me mépriserait, quand bien même on ne me respecterait pas, quand bien même on m'enlèverait la vie, on ne peut pas m'enlever ça. Amen! On ne peut pas m'enlever cela. Je suis libre maintenant d'écouter. C'est quoi mon appel? Quel rôle j'ai à jouer dans cette grande mise en scène pour refléter la personne de Christ et refléter mon amour de Jésus-Christ. On va prier ensemble. Père éternel, merci. Merci pour ton amour pour nous, Seigneur. Merci pour la grâce de te connaître, de t'avoir dans nos vies, Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous as aimés alors que nous n'étions pas aimables. Et ta parole nous dit que tu nous as aimés avant même que nous existions, Seigneur. Et Seigneur, on a besoin de grandir dans l'Évangile. C'est de ça dont Paul nous parle. Que la réalité de l'amour de Dieu vienne remplir complètement notre intelligence. Seigneur, viens nous faire grandir dans cette identité que nous avons en Jésus-Christ. Afin que dans nos relations les uns avec les autres, nous puissions vraiment nous soumettre les uns aux autres, devenir des serviteurs les uns des autres. Aide-nous, Seigneur, à prendre conscience, chacun d'entre nous, quel est le rôle que tu nous as appelé à jouer? Quelle est la partition que tu as mis sur mon lutrin, Seigneur? Et on veut garder les yeux fixés sur toi, Seigneur Jésus. C'est toi le chef d'orchestre, c'est dans ton regard qu'on cherche l'approbation. Pas dans le regard des autres autour de nous, Seigneur. Accorde-nous cette puissance qui va venir transformer complètement nos relations humaines. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.